CIO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur notre compte LinkedIn CIO Radio TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thierry Cartala. Bonjour Thierry.
Bonjour Billy.
Ravi de vous revoir et de nous accueillir encore une fois dans vos locaux. Vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultant. Aujourd'hui, notre invité, c'est Claire Mathieu. Bonjour Claire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la data et de l'IA pour le groupe Suez. Vous êtes marseillaise.
Tout à fait.
Ça semble à Provence dans ce studio. Et vous êtes issue d'une famille de profs de maths. Alors quand je dis issue d'une famille de profs de maths, votre grand-mère était prof de maths, votre maman, votre papa, votre oncle, votre tante et même votre frère. Est-ce que vous êtes le petit canard noir de la famille ?
Oh, je ne suis pas si loin que ça des mathématiques. Hein. J'ai fait une classe prépa, j'ai suivi le cursus de maths et physique. Et puis après, je suis partie vers une école d'ingénieurs dans les télécoms. Mais c'est vrai, je n'ai pas choisi l'enseignement.
Pas l'enseignement, mais vous baignez dans ces mathématiques qui, heureusement pour vous, ne vous paraissent pas compliquées.
Tout à fait.
Parce que toute la famille est là pour vous aider et vous expliquer. Vous passez donc un bac scientifique, vous faites l'école télécom ingénieur Sud Paris. Et ensuite, un stage de 6 mois à Yale. Moi, ça me bluffe. J'aurais voulu aller à Yale, mais pour faire quoi ? De la radio, il n'y avait pas vraiment de cursus. Vous dites que Yale vous a beaucoup apporté, mais pas au niveau des études, mais humainement.
Oui, alors déjà, pour trouver le stage, je l'ai fait au bluff. J'avais vu une émission de télé sur un laboratoire d'analyse d'images du cerveau. Et je leur ai écrit en leur demandant si je pouvais venir faire un stage et ils m'ont dit oui. C'était
aussi simple.
Très simple en fait. Et donc oui, Yale, j'ai découvert un univers américain que je connaissais pas beaucoup. Et donc une ville coupée en deux en fait, une ville avec une université prestigieuse d'élite, hein, une des meilleures du monde.
Et une ville pauvre.
Et une ville pauvre à côté, avec des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et moi, je me suis fait des amis de ce côté-là de la ville. Donc, c'était ouais. Assez intéressant pour moi.
On reviendra sur ce côté humain, où vous aimez tendre la main, et notamment, et dans votre métier, mais à l'extérieur. Vous revenez en France, vous ne restez pas à Yale une fois l'université terminée. Votre premier job, c'est dans une start-up israélienne qui s'appelle Converse. C'est sur la thématique des messages vocaux dans le monde entier. Et vous allez rester 10 ans quand même dans cette boîte, dont 3 années à Tel Aviv. Entre les études à Yale, le mode de vie dans un pays où le soleil est très présent et une autre pensée au niveau de tout ce qui est, informatique, on sait qu'Israël a toujours été très précurseur. Qu'est-ce que ça vous a apporté ces 3 années là-bas ?
Alors déjà, travailler dans cette entreprise m'a fait connaître des gens du monde entier parce qu'on avait un programme de formation avec des gens de toutes les nationalités du monde rassemblés à Tel Aviv pendant 3 mois. Donc ça a été une immersion totale dans un nouveau monde. Et après, j'étais dans un environnement très, très à la pointe de la technologie avec des personnes passionnés par leur travail, ont travaillé des heures entières sans se poser de questions. C'est assez bizarre, cette ambiance de travail.
Il n'y avait pas de 35 heures là-bas, non ?
Pas trop, mais des conditions de travail exceptionnelles. La place des femmes aussi, très importante là-bas, des femmes à tous les niveaux de management. Et une place aussi à la vie familiale très importante. Donc on pouvait travailler beaucoup, mais on pouvait partir si on avait un souci avec notre enfant ou un enfant malade, aucun problème.
En 2008, vous rentrez en France. Là, on va vous retrouver chez Nokia pendant 4 ans. Et ensuite, chez Morpho. Et c'est là que vous allez entrer dans ce qu'on appelle le monde de la big data. C'est une charnière, là, pour vous.
Oui, alors chez Morpho, on m'a tout de suite repérée pour me mettre sur des projets de déploiement de solutions très tech, sur des algorithmes de reconnaissance de biométrie ou de reconnaissance faciale sur des projets avec des volumes monstrueux. Je travaillais pour un projet en Inde où on devait enrôler des centaines de millions de personnes dans une base de données et aller vérifier les empreintes digitales de ces personnes et vérifier qu'il n'y ait pas de doublons. Donc ça crée des volumes incroyables de traitement de données, d'algorithmes, de matching. Enfin, tout ça, je l'ai découvert sur ces projets.
Et ça vous a plu ?
Ça m'a plu, surtout que j'ai été accompagnée par des experts dans le big data, dans l'algorithmie et dans la sécurité aussi, parce que tous ces systèmes doivent être très sécurisés. Et donc, j'ai appris énormément à leur côté.
Alors ensuite, vous allez partir dans une start-up française qui s'appelle Actility, où vous êtes dans le réseau LoRa et IoT. Là, vous poursuivez votre route.
Oui, là, je retourne dans ma zone de confort dans les télécoms. Sauf que c'est une start-up, qu'il y a tout à construire, que les produits ne sont pas encore très stables. Donc, il faut construire avec la R&D des produits qui vont être ensuite déployés pour les grands opérateurs du monde entier et ceux de France aussi, notamment celui d'Orange.
Voilà. Et en 2022, ça y est, vous êtes prête et vous rentrez dans le groupe Suez, où là encore... C'est un groupe très important où il y a un développement, on pense déjà au futur. Et dans ce groupe, eh bien, on va voir comment, mon cher Thierry, Claire a réussi sa transition d'une start-up à une grosse boîte comme ça. Vous êtes passé de très peu d'employés à 44 000 à peu près. Hein.
C'est ça.
Oui. Ben oui, ça pose des questions parce qu'en fait, quand on vient du monde de la start-up et des processus de décision rapides directement avec les dirigeants et qu'on se retrouve avec des comex et des comités de direction dans tous les sens pour prendre une décision qui vous semblera peut-être pas fondamentalement si importante, comment vous avez effectivement passé ce virage culturel hein?
Et en fait, moi, je suis arrivée dans une équipe data, data et IA en construction. Il n'y avait pas d'équipe à l'époque. On travaillait déjà sur la data chez Suez. Dans le domaine du traitement de l'eau et des déchets, mais il n'y avait pas encore cette data office. Donc, on est parti à créer une équipe et donc on est parti d'une feuille blanche. Et finalement, ça ressemble quand même à un travail dans une start-up quand on part de rien pour construire une stratégie data, que ce soit pour un groupe ou pour une petite entreprise, on part de la feuille blanche. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé au départ.
Alors du coup, pour construire cette Data Factory, vous avez dû commencer à travailler peut-être avec le DSI ou d'autres acteurs. Comment ça se passe
Alors, il y a 4 ans, c'était les tout débuts, donc ce n'était pas forcément simple de travailler avec l'IT, ça ne vous étonnera pas beaucoup. Mais on a fait notre place et en fait, on a montré la valeur de l'IA et de la data au travers de projets un peu phares d'amélioration de performance qui ont fait qu'on a trouvé notre place en fait très rapidement dans l'entreprise.
Et les métiers ? Vous avez travaillé sur la gouvernance des données, des choses comme ça avec eux, parce que l'IT peut faire plein de choses, mais sans les métiers, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous avez fait avec les métiers ?
Ben, on a fait plein de choses. Déjà, pour rappel, Suez, c'est une entreprise qui travaille dans le traitement de l'eau et des déchets. Et donc, des sujets d'exploitation, d'amélioration de la performance, il y en a des milliers. Ne serait-ce que comment on détecte des fuites d'eau ou comment on améliore notre tri, le tri des déchets dans nos usines. Donc, ces sujets-là, ils étaient assez importants et très faciles de montrer de la valeur pour les équipes métiers. Donc, on s'est très vite adossé à des équipes et on a fait des équipes multidisciplinaires, métiers, data, IA, IT. Et on a travaillé comme ça sur des cas d'usage très, très concrets qui ont fonctionné. Pas tous ont fonctionné, mais certains.
Alors, on va en parler un peu parce que c'est un vaste sujet. Ça s'attaque notamment par la mise en qualité des données qui viennent de l'IT, mais que les métiers utilisent tous les jours et dont la part est souvent très importante. Comment vous avez effectivement abordé ce problème qui est double, c'est-à-dire à la fois mettre en qualité des données des systèmes existants, et surtout, une fois qu'elles sont mises en qualité, travailler sur les biais culturels que Suez a dû probablement développer dans sa vie de professionnel, de traitement de l'eau, sur l'interprétation, effectivement, par exemple, d'une fuite, ou effectivement de données peut-être plus sensibles sur des sujets de propreté. Et en fait, même si la donnée est en qualité, l'interprétation qu'en font les agents, parfois peut-être surprenante. Et une IA va pas forcément répondre de la même manière, ou en tout cas, si elle prend les biais de cette entreprise, ça peut poser des problèmes. Est-ce que vous avez été confronté à ces deux sujets ?
Alors oui, sur la gouvernance, c'est un travail au long terme. Il faut savoir que travailler sur la gouvernance des données, c'est du long terme, c'est des fondations. On aime bien l'illustrer avec un arbre. La gouvernance, c'est les racines et l'IA, ce sont les fruits et le temps court, en fait. Le temps qui, parce que c'est une durée de vie moins longue. Donc sur la partie gouvernance, on travaille depuis 4 ans à déployer des gardiens du temple de la qualité des données dans les équipes métiers, des data owners ou des data domains, ça change un peu de terminologie, et on les déploie pour que ces gens-là aient la connaissance de ce qui est le point de vérité de la donnée. Et ça se déploie, mais très lentement par contre. Ça prend un temps fou et ça nécessite aussi pas mal d'investissements côté IT pour construire des référentiels de données, etc., des plateformes où les données vont être propres et nettoyées. Donc ça, c'est le temps long. Et aujourd'hui, je ne m'occupe plus de cette partie. J'ai fait ça. Mais maintenant, je me focalise sur le temps court et le temps de l'exploitation des données avec de l'IA. Et là, je ne travaille qu'en collaboration avec des équipes métiers pour nous dire quel est le point de vérité. Et si l'IA répond, c'est eux qui vont valider ça avec nous et nous dire si ça leur va ou pas.
D'accord, et on va rajouter un troisième acteur pour compliquer un peu l'affaire, sinon ce ne serait pas drôle, le Data Privacy Officer et l'utilisation légale d'utilisation des données. Comment vous travaillez avec lui ? Est-ce que vous avez regardé l'IA Act ? Est-ce que vous avez le droit de faire ou pas faire ? Parce qu'on parle de données en temps réel.
Tout
par exemple,
fait.
On sait tous qu'on n'a pas le droit de faire de reconnaissance faciale en
oui.
Europe.
Alors moi, ce qui est bien, c'est que je traite des déchets. Je regarde des bouteilles en plastique et des journaux et je regarde si vous avez bien trié ou mal trié. Donc sur ce côté-là, je n'ai pas trop de problèmes sur les données personnelles. Mais de toute façon, on travaille main dans la main avec la DPO pour faire en sorte qu'on soit conforme à la GDPR et bientôt à l'IA Act qui n'est pas encore mise en application, mais qu'on étudie assez précisément, notamment sur les risques. On est sur des traitements de données peu risqués. Mais on y fait quand même attention. Si on va manipuler des usines d'eau avec de l'IA, il va falloir qu'on regarde s'il y a des risques potentiels à utiliser l'IA. Et dans ce cas-là, on ne le fera pas.
J'en terminerai là-dessus, qui est presque une question éthique. Est-ce qu'une IA pourra prendre une décision demain dans une usine Suez à la place de l'homme ?
On ne va pas déployer ça comme ça. On va le déployer pour une aide à la décision pour les exploitants. On gardera toujours ce binôme homme-machine. Par contre, il y a des cas où on fait déjà des choix qui sont faits par des algorithmes pour optimiser la performance d'un moteur dans une usine. Ça, il n'y a pas de risque à le faire et on peut le faire.
D'accord, donc on continuera à boire l'eau de Suez.
Voilà, à la bonne vôtre. Merci Thierry pour vos questions. Claire, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, cette expérience dans cette société israélienne où il y a déjà très longtemps, la place de la femme était déjà importante. Cette place de la femme, elle vous tient à cœur. Je voudrais que vous nous parliez des femmes et de la science, et notamment de Women in All. Alors, c'est une association.
Elle estime, c'est ça l'association.
Oui, alors, ça veut dire quoi ? Vous allez, comme vous avez une équipe assez féminine, vous allez embarquer votre équipe là-dedans ?
Alors, en fait, il y a beaucoup d'associations en ce moment. Mm-hmm. Women in AI, en fait.
Oui. No, c'est moi qui ai vu le L et les lunettes ont compris. Mais non, c'est...
Ouais, en fait, j'aimerais bien m'engager à promouvoir le rôle des femmes dans la tech et plus précisément dans l'intelligence artificielle. Vous savez que l'IA est assez biaisé et que ça ne ferait pas de mal d'avoir un regard féminin sur ces algorithmes.
Évitons certains genres.
Et du coup, on aimerait participer à des actions de sensibilisation. J'en ai fait une il n'y a pas longtemps pour des collèges avec l'association Elle Estime où on a parlé de notre parcours pour inciter les jeunes filles à suivre ces filières d'ingénieurs dans la tech. Et on l'a fait avec des élèves de 5e, parce qu'on souvent, on le fait trop tard hein, quand on le fait.
Là, c'est au berceau, un peu, quand même.
Et il faut s'y prendre un peu tôt si on a envie que c'est un impact. Donc, c'est une de mes missions 2024, d'embarquer les data scientists de mon équipe dans cette aventure-là et qu'on fasse plus d'actions comme ça. Voilà.
Eh ben, on vous souhaite en tous les cas beaucoup de succès et avec toutes ces femmes et la science. Merci Claire, merci également à Thierry de nous avoir reçus et pour vos questions. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur notre compte LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultants, accélérateur de performance.